France Culture.
Question d'islam par Ghalib Bensouif. Aujourd'hui, nous parlons d'ismaélisme, du califat fatimide, d'un ouvrage majeur écrit par un auteur ismaélien, et nous allons nous familiariser avec l'ismaélisme, une branche du chiisme, avec Fares Gillon. Fares Gillon, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous faire l'amitié de nous faire partager à la fois vos connaissances. Je dis tout de suite à nos amis auditeurs que vous n'êtes pas présent dans le studio. Vous êtes à Aix-en-Provence et via la magie technique, vous êtes en reportite. Alors, vous êtes maître de conférence sur un poste créé par l'Institut français d'islamologie à l'Université Marseille, Aix-Provence-Marseille. Et vous êtes islamologue, vous êtes maître de conférence en islamologie et en arabe, historien et philosophe, intéressé par tout ce qui concerne la nébuleuse, si je puis dire, de l'obédience chiite, de la tradition islamique. Et récemment, vous avez avec Marc Terrier, en accès libre, vous avez cette édition de l'anthologie bilingue de la philosophie islamique. Fares Gillon, vous êtes aussi celui qui a traduit et a noté l'ouvrage majeur intitulé en arabe Kitab al-Kashf, qu'on traduit par le livre du dévoilement d'un certain Ja'far ibn Mansour al-Yaman. Qu'est-ce qui vous a intéressé vous-même à vouloir faire ce travail?
Alors effectivement, j'ai publié donc une traduction de ce Kitab al-Kashf, de ce livre du dévoilement. Ma formation initiale est en philosophie. Cependant, j'ai voulu étudier également la philosophie islamique, qui est malheureusement encore assez peu présente dans nos universités, dans nos facultés de philosophie. Et donc je me suis orienté vers l'islamologie avec un intérêt particulier pour les ismaéliens que j'avais découvert à travers les présentations d'Henri Corbin. Là-dessus, je me suis adressé au grand spécialiste de l'ismaélisme en France actuellement, qui est Daniel De Smet, en lui demandant s'il pouvait m'aiguiller vers un ouvrage à travailler en vue d'une thèse de doctorat. Et donc c'est lui qui m'a un peu dirigé vers cet ouvrage que j'avais rencontré au cours de mes lectures, mais qui jusqu'à présent n'avait jamais fait l'objet ni d'une traduction intégrale ni d'une analyse complète.
Il y a des ouvrages au pluriel qui portent cette idée, ce titre du dévoilement. Nous en avons un chez Averroès, nous avons d'autres chez quelques mystiques, qui est le fait de dévoiler des choses cachées, ésotériques. Et donc là, particulièrement, pour cet ouvrage-là, c'est le livre du dévoilement. Mais alors, il dévoile quoi?
Alors, je dirais que le dévoilement dont il s'agit ici est principalement d'ordre herméneutique et exégétique, puisqu'il s'agit en fait de démontrer que le Coran parle en réalité de la dawa ismaélienne, de l'imama ismaélien.
Une dawa est une sorte de mission d'un prosélytisme, en quelque sorte.
Tout à fait, tout à fait. Peut-être qu'on pourrait en parler d'ailleurs, puisque c'est quelque chose qui caractérise le mouvement ismaélien, justement cette organisation missionnaire. Alors l'ismaélisme en fait a des origines historiques assez obscures, puisque il est censé naître dans le sillage de Ismaïl ben Ja'far, donc le fils du sixième imam Ja'far al-Sadiq des chiites, qui est mort en 765. Cependant, il n'apparaît en fait réellement sur la scène historique et politique que au début du Xe siècle, c'est-à-dire au moment de la proclamation du califat fatimide en Afrique du Nord, en 910. Donc entre 765 et 910 s'écoule un siècle et demi de assez mystérieux, où l'on connaît mal en fait les activités exactes de ce mouvement. On connaît mal sa genèse. On connaît mal la nature de ses activités, mais il semble qu'on ait affaire à un mouvement très organisé et centralisé qui envoie des prêcheurs aux quatre coins du monde musulman pour recruter des partisans et pour conquérir des forteresses et des territoires en vue de la venue eschatologique du Mahdi. D'un Mahdi qu'ils attendent et qu'ils identifient au fils de cet Ismaïl dont je vous parlais un instant, Mohammed.
Le lien finalement que vous avez très vite fait avec le califat fatimide, nous y reviendrons. Où est-ce que l'ismaélisme va dans un premier temps essaimer? On est dans ce que nous appelons d'ici le Proche-Orient, Moyen-Proche-Orient, mais il y a aussi des propagateurs de cette idée, des missionnaires qui vont au Yémen.
Absolument, au Yémen, en Iran, en Afrique du Nord. Alors en réalité, le mouvement semble, au cours du IXe siècle, s'installer, en fait, la direction du mouvement semble s'installe à Salamiya, qui est une ville à l'est de Homs, en Syrie, clandestinement, puisque les dirigeants du mouvement sont à Salamiya sous de fausses identités. Et de là, ils dirigent un réseau d'agents propagandistes qu'ils envoient en réalité partout, hein, dans l'ensemble de ce qui constitue le monde musulman à l'époque. Mais ce mouvement ne rencontre de succès en réalité qu'effectivement au Yémen, où il parvient à se tailler un territoire et à conquérir plusieurs forteresses dans le dernier quart du IXe siècle, et donc en Afrique du Nord, qui deviendra en fait le lieu de naissance du califat fatimide. Donc ce qui correspond à ce que les sources classiques appellent Ifriqiya, c'est-à-dire la Tunisie actuelle et une partie de l'Algérie de l'Est.
Si nous nous appesantissions un peu sur le père de l'auteur de l'ouvrage, donc le père de Jafar, qui lui-même aussi est une autorité ismaélienne au Yémen, et qui est considéré comme le conquérant ou le victorieux, qui a réussi à mobiliser et sensibiliser la population à la doctrine ismaélienne.
Tout à fait. Ibn Hawshab Mansour al-Yaman, donc Mansour al-Yaman, l'assisté par Dieu dans sa victoire sur le Yémen, littéralement, était un Irakien de Koufa. Il est mort en 915, autour de 915, qui s'est converti à l'ismaélisme, qui a rejoint ce mouvement-là et qui donc a été envoyé par la direction du mouvement au Yémen pour y conquérir des forteresses, ce qu'il a fait avec succès. Et de là, c'est lui, en fait, qui envoie à la Mecque un missionnaire qui s'appelle Abu Abdallah al-Shi'i, qui sera, en fait, l'artisan de la conquête de l'Ifriqiya, de l'Afrique du Nord. Et c'est lui qui va, en fait, établir le terrain, en fait, préparer le terrain pour la venue du premier calife fatimide. Donc, Ibn Hawshab, pour revenir à lui, aura du succès de son vivant, c'est-à-dire il arrivera, effectivement, à conquérir des parcelles de territoire au Yémen. Mais en fait, dès sa mort, la Dawa ismaélienne, l'organisation ismaélienne, en fait, perd de l'influence au Yémen, influence qu'elle retrouvera un peu plus tard avec les Fatimides.
Alors, à un moment donné, il était avec quelqu'un, d'ailleurs, dont vous avez cité le nom, c'est Abdallah Shi'i, et il y a eu quelques frictions entre eux ou ça a toujours été une bonne entente?
Non, il n'y a pas eu de friction à ce moment-là. Les frictions adviennent en fait un peu plus tard, lorsque le premier calife fatimide, Obaidallah al-Mahdi, prend le pouvoir, donc, se proclame le Mahdi attendu et se proclame calife.
On est en 909.
Il a assez rapidement des désaccords et un conflit avec celui auquel il doit en fait son accès au pouvoir, c'est-à-dire Abu Abdallah al-Shi'i. Et bientôt, semble-t-il, à la suite d'un complot ourdi par Abu Abdallah al-Shi'i, les deux frères sont exécutés par le calife, qui donc prend les pleins pouvoirs afin de ne plus devoir, en quelque sorte, son pouvoir à quelqu'un d'autre.
Après, ce Mahdi, ou celui qui se présente comme tel, sera considéré comme le véritable fondateur de la dynastie fatimide, en référence à Fatima, la fille du prophète, et qui est aussi l'épouse du premier imam, Ali.
Absolument. Il cherche à fonder en fait sa légitimité non plus sur un prestige eschatologique, mais sur une revendication légitimiste, une revendication généalogique, dans le sens où il prétend descendre en droite ligne de Ali et de Fatima, d'où effectivement le nom fatimite de la dynastie.
Nous verrons ensemble que cette dynastie fatimide, ou qui donne lieu au califat fatimide, d'abord il y a une première, c'est le fait d'avoir deux califes, ou un calife et un anti-calife. On verra plus tard, vers 929, le troisième, à un moment donné de l'histoire de l'islam, il y aura trois califats, avec le califat omeyyade d'Occident. Mais ce califat fatimide, qu'est-ce qui le caractérise par rapport au califat en place, celui dont le siège est encore à Bagdad?
Première chose qu'on peut dire sur le califat fatimide, c'est qu'il représente un exemple inédit à l'époque et en fait inédit dans l'histoire. Un épisode où nous avons un État musulman dirigé par un imam, et un imam au sens pleinement chiite du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui est investi de tous les pouvoirs charismatiques, de toute la considération ésotérique et mystique qu'a le chiisme pour son imam. Et c'est en fait un cas unique, puisqu'il y a eu dans l'histoire de l'islam d'autres pouvoirs chiites, mais jamais aucun de ces pouvoirs chiites n'avait à son sommet cette figure centrale de tout chiisme. Alors évidemment, le zaïdisme est une exception dans la mesure où les zaïdites ont aussi un imam, mais l'imam zaïdite n'est pas investi des mêmes particularités, des mêmes pouvoirs spirituels, du même charisme spirituel que l'est l'imam dans le chiisme duodécimain et dans le chiisme ismaélien.
Un jour, nous consacrerons davantage d'explications à ce que j'ai appelé une nébuleuse ou une galaxie chiite. Pour l'instant, nous parlons d'un des courants principaux, le courant ismaélien. Et dans ma question, c'était l'idée aussi de voir que la conquête ou le pouvoir fatimide va se faire plutôt de l'ouest vers l'est, alors que d'ordinaire, et avec les paladins, comme certains les présentent, arabes, après ils retransmettront ou relayeront le message, venaient plutôt de la péninsule arabique en essaimant un peu partout, en allant vers l'est et vers l'ouest, en Afrique du Nord.
Absolument. Alors on peut dire qu'il y a une forme d'opportunisme de l'organisation ismaélienne à cette époque, c'est-à-dire le choix de l'Afrique du Nord était un choix contraint, en quelque sorte, dans la mesure où c'est là où Abu Abdallah al-Shiri avait le plus fermement établi un quasi-État, et donc c'est là que le dirigeant de l'organisation a décidé d'aller lorsqu'il lui a fallu fuir la Syrie, parce que c'est là que sa organisation était la mieux ancrée. Mais en réalité, les Fatimides eux-mêmes ne sont pas des Africains du Nord, si je puis dire. Ce sont des Irakiens d'origine, ou des Arabes, c'est-à-dire de la péninsule arabique. Et donc leur but a toujours été de recentrer le centre de gravité de leur empire vers l'Est. Donc de se rapprocher de la Syrie, de se rapprocher du Hijaz, c'est-à-dire de la région où sont les deux villes saintes de l'islam, la Mecque et Médine. Ce qu'ils finiront par faire vers la fin du Xe siècle.
En gros, ils viennent vers Al-Fustat, qui est la ville qui se trouvait, et à côté vont fonder la ville du Caire, la Victorieuse. On est en 969.
C'est ça, la conquête de l'Égypte, c'est 969. Après plusieurs campagnes infructueuses tout au long du Xe siècle, donc 969, c'est la campagne qui réussit enfin. Et donc effectivement, c'est les Fatimides qui vont fonder le Caire à côté de la ville de Fustat, qui était la ville-camp en fait, établie par les conquêtes arabes. Et donc c'est aux Fatimides que le Caire doit d'être devenu une grande capitale du monde musulman, une capitale impériale.
Oui, il y avait cette idée effectivement de passer d'une ville garnison à une capitale, à une ville-monde. Alors, dit-on, je le dis sous votre contrôle, vous qui savez mieux que moi, que le califat fatimide, en dehors d'un calife particulier, Al-Hakim, était plutôt ouvert sur le monde, et ils avaient même confié des missions importantes, et voire des fonctions au plus haut sommet de l'État, à d'autres fidèles d'obédience au sein de l'islam sunnite qui ne sont pas les leurs, et surtout aux gens du livre, selon la phraséologie coranique connue, c'est-à-dire aux juifs et aux chrétiens.
Oui, absolument, oui, tout à fait. L'administration du califat fatimide était effectivement réputée pour avoir accordé une place importante à des fonctionnaires juifs ou chrétiens. À tel point qu'à l'époque d'Al-Hakim, justement, dans les rues du Caire, résonnait parfois un chant populaire reprochant précisément à l'administration ce que certains percevaient comme une trop grande indulgence envers les gens du livre. Effectivement, l'exception, ce sera le règne d'Al-Hakim, bi-amrillah, donc qui meurt en 1020 ou 21.
Enfin, il meurt ou il disparaît oui. Ou on l'assassine. En tout cas, on retrouve 5 jours plus tard ses habits lacérés. Et on ne sait toujours pas où est-ce qu'il est. Et il donnera naissance par la suite, enfin, sa disparition à l'obédience druze.
Tout à fait, oui. D'ailleurs, dès son vivant, en fait. Hein, la campagne ou la mission druze commence dès le vivant d'Al-Hakim, apparemment avec une certaine complaisance de sa part. Et effectivement, sa disparition mystérieuse ne fait que nourrir les spéculations druzes sur sa nature divine.
Alors, d'aucuns, nous n'allons pas nous attarder là-dessus, mais d'aucuns disent que sa disparition est aussi un complot ourdi par sa sœur, c'est le Mulk.
Tout à fait. Alors il faut savoir, je ne m'appesantirai pas dessus, mais il faut savoir qu'à l'époque d'Al-Hakim, nous sommes dans un cadre où les intrigues de palais prennent de plus en plus de place dans la vie politique du califat. Et effectivement, la disparition d'Al-Hakim et le pouvoir que prend sa sœur après cette disparition sont une indication, une illustration de cette évolution du pouvoir fatimide.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam et aujourd'hui nous parlons à la fois de la doctrine ismaélienne, du califat fatimide et d'un ouvrage majeur de cette doctrine de l'ismaélisme qui est le livre du dévoilement avec Fares Gillion qui est maître de conférences en islamologie et en arabe à l'université d'Aix-Marseille. Pour cette deuxième partie de notre entretien, cher Fares Gillion, et pour finir aussi avec le califat fatimide que nous essayons de connaître davantage, il prendra fin en 1171 sur, en gros, décision ou action de Saladin, qui réintégrera ce qui reste du califat fatimide au giron abbasides.
Exactement. À l'époque où Saladin renverse le califat fatimide, celui-ci n'est déjà plus que l'ombre de lui-même depuis déjà quelques décennies, puisque les califes n'ont plus de pouvoir effectif, n'exercent plus la réalité du pouvoir, et que celui-ci est en réalité aux mains des vizirs.
Oui, et à la fois, il y a les coups de butoir des croisés. Même d'un point de vue territorial, ce n'est que dans l'actuelle Égypte et encore. Donc, on est un peu sur la fin du califat fatimide. qui, au temps de son apogée, a produit des arts, de la culture, de la connaissance et d'une production aussi intellectuelle et philosophique.
Oui, absolument, et qui est effectivement connu pour avoir facilité le développement des échanges commerciaux en Méditerranée, avec en mer Rouge également, et pour avoir développé les artisanats, en fait, de toutes sortes.
Alors parlons, si vous voulez bien, maintenant de Ja'far ibn Mansour al-Yamen. On a parlé un peu de son père et il lui-même, à la fois sa formation, sa trajectoire de vie.
Alors je vais vous décevoir malheureusement, puisque nous ne savons quasiment rien de Ja'far ibn Mansour al-Yamen. Si ce n'est qu'il était le fils de son père et qu'il était au Yémen lorsque son père est mort et qu'il a rejoint à un certain moment la cour fatimide alors établie en Éphéria, donc en Afrique du Nord, probablement dans la ville de Mahdiya, qui a été fondée par les fatimides. Et voilà, et à part ça, nous ne savons quasiment rien de plus. Et tout ce que nous avons, ce sont ses œuvres. Donc nous savons à peu près à quelle période il a été actif, et par ses œuvres nous connaissons un peu sa doctrine, bien que le corpus transmis sous son nom présente des difficultés redoutables, puisque nous avons entre 12 et 15 ouvrages qui lui sont attribués, qui nous sont parvenus sous son nom, mais en réalité, seuls peut-être 3 ou 4 d'entre eux peuvent correspondre exactement à sa période d'activité et ont une certaine cohérence entre eux. Les autres ouvrages, manifestement, sont écrits par différents auteurs à des dates légèrement postérieures ou légèrement antérieures. Mais voilà, donc je fais partie des quelques chercheurs qui travaillent actuellement au défrichage de ce corpus afin d'identifier qu'est-ce qui pourrait être attribué avec exactitude et un haut degré de probabilité à Ja'far ibn Mansour al-Yamen, et qu'est-ce qui doit être identifié comme l'œuvre d'autres auteurs.
Si j'ai bien compris, dans la doctrine ismaélienne, il y a cette idée à la fois d'une compréhension et d'une interprétation et une approche herméneutique du texte coranique avec une lecture au sens obvie et une lecture allégorique, métaphorique, anagogique, symbolique. Et on trouve cette dualité exotérique-ésotérique dans la doctrine ismaélienne.
Tout à fait, oui. Oui, c'est même une des lignes directrices, en fait, hein, de la pensée ismaélienne, que cette distinction entre le zahir et le batin, entre l'exotérique et l'ésotérique. Et donc les ouvrages justement attribués à Ja'far ibn Mansour al-Yamen, bien que souvent de styles différents, ont quand même témoignent de certaines constantes, en fait, hein, qu'on peut identifier comme étant celles de la pensée ismaélienne. Ces constantes étant l'exégèse symbolique et ésotérique du Coran.
Et si on revient à l'ouvrage lui-même auquel vous vous intéressez et dont nous parlons maintenant, le livre du dévoilement, il est composé de 6 traités.
Alors justement, ça fait partie de ces choses qui nous font douter, en fait, hein, de l'œuvre de Ja'far ibn Mansour al-Yamen, puisque nous avons ici un ouvrage qui est en fait un recueil de textes plutôt qu'un livre à proprement parler, bien qu'il porte un titre rassemblant ces différents textes dans un ensemble unique. Donc oui, ces six traités en fait sont de taille, de nature, de style assez différents. Et donc ça a été assez douloureux, je dois dire, comme de travailler là-dessus, puisque en fait, au lieu de travailler sur un livre par un auteur, je me suis un peu retrouvé à travailler sur 6 textes, dont peut-être certains correspondaient à différentes étapes de la carrière d'un auteur que l'on peut ou pas identifié à Ja'far ibn Mansour al-Yaman.
Et donc, le caractère un peu hétéroclite ou parfois disparate vous fait douter du, disons, de l'aspect un peu monolithique de la pensée ou même du produit en tant que tel, de l'ouvrage qui serait plus un recueil d'autres textes avec des auteurs différents et pas nécessairement d'un seul auteur qui en l'espèce est Ja'far ibn Mansour al-Yaman.
Alors je dois dire que au cours de mon travail sur ce texte, j'ai changé une bonne centaine de fois d'opinion à ce sujet. Et c'est vrai que quand on commence à lire le Kitab al-Kashf, en fait, on se retrouve face à une sorte de patchwork, c'est-à-dire des fragments de textes, des hadiths, des exégèses coraniques qui se suivent et ne sont pas connectés les unes aux autres. C'est-à-dire que vous aurez une exégèse d'un verset coranique suivie d'une autre, et que l'auteur ne fera jamais les liens, n'établira jamais de connexion logique d'un paragraphe à l'autre. Donc vous avez une suite de paragraphes quasi indépendants, et c'est en fait, une fois que vous avez lu l'ensemble, que vous commencez à avoir une vision générale, que vous arrivez à cerner une doctrine cohérente qui traverse l'ensemble de ces textes. Mais cette doctrine ne se donne pas comme dans un traité de philosophie ou dans un traité de théologie. Elle ne se donne pas de façon argumentée, de façon logique, avec un début, une fin et un développement au milieu. Ça fonctionne plutôt par touches successives.
Et ce sont des assertions apodictiques, péremptoires, ou ce sont des propositions, ou c'est simplement des commentaires, et là on est dans une herméneutique classique.
Alors ce sont plutôt des commentaires, mais des commentaires à l'ismaélienne, c'est-à-dire que l'enjeu n'est pas d'établir la lettre du texte coranique, d'expliquer la lettre du texte coranique, mais d'en expliquer au contraire la symbolique. Donc vous ne trouverez pas dans les commentaires ismaéliens du Coran tout l'arsenal des sciences exégétiques développées dans d'autres courants de l'islam et dans le sunnisme en particulier, notamment la grammaire, la lexicographie, l'histoire et puis les conditions de la révélation. Enfin, les circonstances de la révélation, qui est un genre très très important dans l'exégèse coranique musulmane. Ceci est quasiment absent de l'herméneutique ismaélienne. Ce qui intéresse nos auteurs ismaéliens, c'est surtout de trouver dans le Coran de quoi légitimer et justifier le magistère de l'imam fatimide et de l'organisation qui dépend de lui, qui dépend de son magistère, c'est-à-dire de la darwa ismaélienne.
Si nous devions prendre, par exemple, le cas du traité 1, là, ça parle essentiellement de lumière, de théophanie, c'est la manifestation divine. Moi qui ne connais pas ce sujet, y a-t-il une approche de la théophanie par la beauté, par l'éclat étincelant de la lumière divine, ou de quoi ce traité parle-t-il ?
Alors, le traité 1 est sans doute l'un des plus difficiles du recueil, précisément parce que c'est là que l'on ressent de la façon la plus aiguë cette construction en patchwork dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, nous avons vraiment une série de fragments, une série de paragraphes qui se suivent les uns les autres sans que l'on puisse, à première vue, déterminer avec précision où l'auteur veut en venir et quelle est la doctrine précise qu'il soutient. Alors je dirais en fait que l'intérêt de cette de l'ismaélisme et de ce genre de texte, c'est que ils ont été composés en premier lieu dans un objectif politique. L'enjeu premier n'est pas tant de mieux connaître le Coran pour lui-même et par lui-même, mais en premier lieu, l'enjeu, c'est de légitimer et de justifier un pouvoir politique, de légitimer l'autorité temporelle et spirituelle du calife fatimide. Cependant, ce qui rend l'herméneutique ismaélienne intéressante au-delà en fait, des circonstances politiques et du contexte historique qui l'ont vu naître, c'est une certaine ingéniosité herméneutique et une certaine indépendance même des missionnaires ismaéliens, des auteurs ismaéliens, qui proposent voilà, des lectures très, très osées, très originales en fait, de certains textes, de certains passages du Coran. Et finalement, cette indépendance et cette originalité herméneutique traversera en fait les frontières de l'ismaélisme et aura de l'influence au-delà des ismaéliens, notamment dans le soufisme.
Oui, parce qu'il y a eu toutes les controverses et les polémiques sur certains passages de la révélation ou du texte consigné par écrit, parlant du mandat ou de la wilaya, je ne sais plus comment on peut traduire cela, confié à Ali et qui aurait été délibérément enlevé du texte coranique par des sunnites malveillants et surtout les tout premiers califes dits de la rectitude spirituelle ou les califes les mieux guidés ou les califes orthodoxes. Comme on les a appelés bien plus tard, on les avait pas appelés ainsi de leur vivant.
Oui, absolument. Vous faites allusion ici à la doctrine chiite de la falsification en fait de la lettre du texte coranique, doctrine qui, il faut le dire, a été assez rapidement marginalisée, hein, y compris dans le chiisme du haut décimain. Dans l'ismaélisme, cette doctrine n'apparaît pas de manière très nette. En fait, l'accent est moins mis sur une possible falsification du texte coranique que sur une trahison du message, en réalité, coranique. Donc le texte, a priori, est juste, mais le problème est que le reproche ismaélien, qui est un reproche chiite, en fait, hein, c'est que les sunnites n'ont pas été jusqu'au bout de la révélation islamique, puisqu'ils ont arrêté leur obéissance ou leur soumission à Mohammed, à ce qui est apporté par le prophète Mohammed. Or, pour bien faire et pour être sauvé, il est nécessaire de suivre aussi Ali, Ali qui est en charge en fait de la dimension ésotérique de cette révélation.
Et toute une construction sur des thèmes eschatologiques.
Oui, tout à fait. Alors pour les Ismaéliens, c'est un peu particulier parce que lorsque le mouvement était encore dans sa période de clandestinité, effectivement la dimension eschatologique était très présente et très nette. Lorsque les Fatimides arrivent au pouvoir, vous imaginez bien que une doctrine qui serait fondamentalement eschatologique est peu compatible avec l'exercice avec la fondation d'un État stable et durable. Et c'est quelque chose qu'ont compris très vite les premiers califes Fatimides, qui ont cherché presque immédiatement à réformer en fait la doctrine ismaélienne. Et à l'adapter aux nouvelles circonstances. Donc en tempérant les aspects les plus susceptibles de choquer, non seulement de choquer les autres musulmans, mais les plus susceptibles en fait de causer des troubles politiques.
De toute façon, c'est les thèmes eschatologiques qui reviennent fréquemment, déjà du vivant du prophète lui-même, selon un hadith dont on ne sait pas s'il est apocryphe ou pas, il aurait montré son index et son majeur et en disant « il ne nous reste plus à vivre, enfin pour nous tous, que le fait de pouvoir rattraper, selon l'image qui était la sienne, de ce qui manque entre l'index et le majeur. Donc on est dans des temps de fin dernière. Et ceci reste toujours pour les révolutions, pour les révolutions au sens de vouloir subvertir et inverser l'ordre établi.
Tout à fait, mais sauf que quand vous n'êtes pas vous-même au sommet de cet ordre établi, vous pouvez vouloir le renverser, mais une fois que vous incarnez vous-même cet ordre établi, dans ce cas-là, il ne peut plus être question d'une doctrine révolutionnaire.
Bien sûr, maintenant, quand on est maître du monde où on voudrait l'être, c'est plus... Il y aurait peut-être un peu de téléologie pour parler de la finalité de la vie, un peu des fins dernières qu'il faudrait savoir préserver, ou en tout cas sur lesquelles il faut capitaliser, mais il faudrait aussi vivre dans le monde, et les préoccupations deviennent mondaines.
Absolument.
Pour le deuxième ouvrage, deuxième traité de l'ouvrage, c'est plutôt une exégèse cette fois-ci, non pas du texte coranique, mais une compréhension des hadiths du prophète et essentiellement deux particulièrement. Et là, ça vous a causé quelques petits ennuis ou c'était un peu plus léger?
Alors, ce deuxième traité est assez court et consacré, c'est le seul en fait hein, de l'ouvrage qui est entièrement consacré à des considérations, des spéculations cosmologiques, puisqu'il s'agit en réalité de la création du trône et du piédestal par Dieu, et ensuite de la création des lettres de l'alphabet, qui sont conçues comme des éléments en fait fondamentaux à l'origine du monde tel que nous le connaissons. Ce texte, c'est le traité 2, donc est constitué pour les deux tiers de hadiths qui sont attestés dans les sources chiites du Haut-Décimène. C'est quelque chose que j'ai mis en évidence. Et donc c'est la dernière partie du traité qui est originale, celle où justement nous avons cette cosmogonie alphabétique, donc où Dieu crée les lettres de l'alphabet, et ces lettres de l'alphabet émanent ensuite les unes des autres, de l'alphabet arabe, bien sûr. Et ces lettres émanent ensuite les unes des autres et représentent en fait les prophètes et les imams.
Alors, nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam, mais aujourd'hui avec l'historien et philosophe Fares Gillon, nous parlons de la doctrine ismaélienne. On a parlé un peu du califat fatimide qui, pour l'essentiel, est aussi fondé d'un point de vue doctrinal sur l'ismaélisme, et nous parlons tout particulièrement d'un ouvrage de l'auteur Ja'far ibn Mansour al-Yaman, c'est le livre du dévoilement. Fares Gillon est maître de conférences en islamologie et en langue arabe à l'université d'Aix-Marseille et il est aussi co-auteur avec Marc Terrier de l'anthologie bilingue de la philosophie islamique qui vient juste de paraître, c'était le 23 janvier dernier. Cher Fares Gillon, pour cette dernière partie, si même d'une manière très sommaire, et si je puis dire même d'une manière quasi télégraphique, vous nous parliez des quatre autres traités de l'ouvrage, qui est un peu la base, ou une des bases de la doctrine ismaélienne. De quoi ces quatre traités parlent-ils?
En fait, je pense qu'il est intéressant d'avoir une vision d'ensemble en fait de cet ouvrage. qui, comme je l'ai démontré, a été manifestement composé au tout début de la période fatimide, donc très peu de temps après l'accès au pouvoir des califes fatimides, en utilisant cependant des matériaux plus anciens. Donc l'auteur ou l'éditeur de cet ouvrage a rassemblé des textes et des hadiths et des interprétations qui avaient déjà cours dans le milieu ismaélien pendant la période de clandestinité, mais il les réutilise, il les réoriente afin de justifier et de rendre compte également des nouvelles circonstances historiques et de la nouvelle situation politique, et donc afin de justifier, de légitimer l'imamat des Fatimides. Donc l'objet d'ensemble de l'ouvrage est en fait en grande partie de réutiliser les doctrines, le vocabulaire technique, la tradition exégétique du chiisme au sens large, tel qu'il existait au 8e, 9e siècle, et de mettre tout cela au service de ce nouveau pouvoir. Donc on va puiser en fait abondamment dans les ressources de la tradition exégétique chiite, hein, ce que l'historien islamologue Meir Baracher a appelé l'école exégétique pré-bouïde du chiisme. Les bouïdes sont une dynastie de vizirs qui a régné à Bagdad entre 945 et 1055, et donc qui ont beaucoup favorisé en fait le développement du chiisme à cette époque. Et donc il y a un avant et un après la période bouïde pour ce qui est de la construction de l'identité chiite. Et donc les Ismaéliens fatimides sont tributaires en fait de ce chiisme pré-bouïde, mais qu'ils réinterprètent à leur façon. Donc par exemple, une des caractéristiques de ce chiisme pré-bouïde, c'est qu'ils avaient une lecture personnalisée, si l'on peut dire, des versets du Coran. C'est-à-dire qu'ils cherchaient dans les versets du Coran un témoignage des dissensions qui ont eu lieu au sein de la communauté musulmane après la mort du prophète, donc avec la crise de succession et l'opposition entre les partisans d'Abou Bakr, hein, qui fut le premier successeur du prophète, et les partisans de Ali, qui estimaient que c'était à ce dernier qu'aurait dû échoir le pouvoir à la mort de la direction de la communauté, en tout cas à la mort du prophète. Donc cette vieille ancienne chiite de l'usurpation supposée du pouvoir par Abou Bakr est reprise par les Ismaéliens, mais orientée vers pour comme un commentaire de leur propre situation. C'est-à-dire que tous les ennemis et adversaires de l'imam fatimide seront identifiés aux ennemis et adversaires de Ali, tels que les chiites les trouvaient mentionnés visé en tout cas dans le Coran.
En reprenant cette querelle qui n'est qu'un doux euphémisme avec par rapport à ce qui s'est passé, et en plus les choses s'aggravaient puisqu'après la mort de Abou Bakr, en le francisant Abou Bakr en 634, la même situation se reproduit avec Omar, deuxième calife, et puis elle se reproduit encore une troisième fois, ce qui fait que ça laisse des traces. Et si j'ai bien compris, l'ouvrage, le livre du dévoilement, insiste aussi, ou a pour but, peut-être d'une propagande politique, mais au moins de la centralité de l'imam comme à la fois guide spirituel, mais aussi comme gouvernant.
En fait, l'ismaélisme rassemble, l'ismaélisme fatimide en particulier, conjoint deux des aspirations fondamentales du chiisme, qui sont d'une part l'aspiration politique, c'est-à-dire l'idée que le pouvoir politique légitime échoit exclusivement à l'imam élu par Dieu, imam issu de la descendance de Ali. Et donc ça, c'est l'aspiration politique. Et l'autre aspiration, c'est l'aspiration spirituelle, c'est-à-dire l'idée que cet imam ne tient pas sa légitimité uniquement d'un droit généalogique, mais qu'il la tient d'un magistère, en fait, hein, spirituel, il est plus savant que la moyenne des hommes. Il est divinement inspiré, cet imam.
A-t-on dû ployer dans cette optique-là des versets coraniques et a fortiori des aphorismes ou des maximes ou des hadiths du prophète?
Oui, certainement, mais je crois que c'est le jeu herméneutique. L'ambition de tout herméneute est toujours de tirer le texte qu'il interprète vers lui-même, vers sa propre doctrine. Alors il le fait avec plus ou moins de bonheur, plus ou moins de raison. Alors je ne sais pas si les interprétations des Ismaéliens sont les plus justes, mais en tout cas elles font certainement partie des plus ingénieuses, des plus originales et des plus osées. Alors parfois elles commettent des infractions à la grammaire la plus élémentaire, mais ce que l'on perd sur le champ, dans le champ de la grammaire, on le gagne dans le champ de la spéculation théologique, voilà, de la doctrine.
Alors, dit-on, mais vous allez peut-être confirmer ça ou l'infirmer, mais finalement, les Ismaéliens sont épris de connaissances, de raisons, de philosophie, d'études, et même la société secrète, la société savante, qui est les frères en pureté ou les frères de la pureté, sont plutôt d'obédience de théosophie ismaélienne.
Alors, c'est un point extrêmement débattu que celui de l'appartenance confessionnelle des frères de la pureté.
Et amant de la sincérité.
Tout à fait. Effectivement, c'est un très vieux débat, c'est-à-dire que les Ismaéliens, à un moment de leur histoire, ont commencé à revendiquer les épîtres des frères des frères de la pureté comme étant une production, une production ismaélienne. Mais ça, c'est relativement tardif. En tout cas, c'est après la fin du califat fatimide. Et à l'époque fatimide, il n'y a nulle part de mention de ces épîtres, en fait. Hein. Aucun auteur fatimide ne connaît ces épîtres-là. Donc toute la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on a considéré si longtemps que les frères de la pureté étaient ismaéliens. Et c'est sans doute parce qu'il y a des allusions à une organisation, il y a des allusions à un imamat, et il y a des allusions à un changement de pouvoir imminent. Finalement, il y a une aspiration commune finalement entre l'organisation ismaélienne et celle des frères de la pureté, c'est-à-dire l'aspiration à l'instauration d'un pouvoir juste qui serait couronné par la figure de l'imam, d'un imam divinement inspiré. Mais au-delà de ça, je ne crois pas que les Juan al-Safa, les frères de la pureté, apparaissent à la même organisation que celle qui donnera lieu au Fatimide, parce qu'il y a beaucoup de différences en fait de contenu, de méthode, de doctrine, et il y a un chiisme aussi des Ismaéliens Fatimides que l'on ne retrouve pas ou de façon quand même très atténuée chez les frères de la pureté, notamment une forme de chiisme extrémiste et très anti-sunnite, en fait, c'est-à-dire très, très polémique envers les premiers califes de l'islam, donc, que nous avons mentionné, hein, Abu Bakr, Omar et Osman, ce qui n'est pas quelque chose qu'on retrouve chez les frères de la pureté, qui, eux, au contraire, vont jusqu'à valoriser la figure de Osman l'assimiler, en fait, à la figure de Socrate. C'est-à-dire sur la base d'un abandon devant la mort, en fait, hein, c'est-à-dire d'acceptation de son sort, puisque Haussmann a été assassiné chez lui par des émeutiers.
Et son sang a giclé et en tombant sur un verset coranique qui finalement sursoit dans l'au-delà, la vengeance de ce crime commis par des conjurés.
Or, cette vision positive en fait de Haussmann n'est pas du tout compatible avec avec le chiisme qui avait cours au Xe siècle, et certainement pas avec le chiisme ismaélien, en tout cas tel que je le trouve dans ce fameux livre du dévoilement, et même dans les autres œuvres attribuées à Ja'far ibn Mansour al-Yaman. Voilà, dans toutes ces œuvres-là, il y a au contraire une hostilité fondamentale, hostilité qui est commune à la plupart des courants chiites, le zaïdisme excepté, hostilité fondamentale à la plupart des compagnons du prophète et en premier lieu aux trois premiers califes de l'islam.
Bon, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, que pourrait-on dire de l'ismaélisme maintenant ? Est-ce qu'on peut parler d'une gnose particulière, d'une théosophie ismaélienne, en dehors des exégèses relatives à la résurrection, messianisme, à une sorte d'enseignement initiatique ?
Alors, tout dépend de la branche de l'ismaélisme aujourd'hui, puisqu'il en existe aujourd'hui une dizaine hein, de branches. La plupart ne reconnaissent pas d'imam, et l'une d'entre elles reconnaît pour imam l'Aga Khan, aujourd'hui l'Aga Khan IV, donc qui est en fait et donc cette branche là de l'ismaélisme est en réalité aujourd'hui le seul chiisme qui dispose de son imam vivant. Tous les autres chiites, en fait, sont dans l'attente du retour de leur imam.
Occulté.
Donc aujourd'hui, il existe deux branches principales hein, des ismaéliens issus de deux schismes successifs dans l'histoire du califat fatimide. Donc je n'y reviens pas, mais les deux branches sont les nizarites, en fait, qui vont se développer plutôt dans le monde iranien et en Asie centrale, et en fait en traversant ce monde-là aboutiront à une communauté indienne ou dans le sous-continent indien d'une part, et l'autre branche c'est la branche des mostaliens qui eux vont aussi rejoindre l'Inde et sont aujourd'hui principalement présents en Inde mais par un autre chemin, par le chemin du Yémen et de l'océan Indien. Donc vous avez une branche qui va être plutôt persanisante et une branche qui va être plutôt arabisante. Et c'est en fait à cette seconde branche, les mostaliens, que l'on doit principalement la transmission des textes de l'époque fatimide, des textes en arabe.
Alors si nous avions un peu plus de temps, nous aurions parlé des Ismaéliens maintenant et de leur œuvre, de ce qu'ils font un peu partout de par le monde, des actions de mécénat, etc. Et nous le ferons peut-être une autre fois si vous nous faites l'amitié de revenir à l'émission. Merci infiniment, merci cher Fares Gillion. Chers amis auditeurs, vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture. Et vous pourrez la podcaster, la réécouter sur l'application Radio France. Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres, et notamment celui dont nous avons parlé aujourd'hui sur le site de franceculture.fr. L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Valentin Azon-Zielinski et la réalisation par l'ami François Connac.